Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Les scandales sexuels à la une de l'actualité, l'Église catholique en crise, c'est le thème de cette série avec pour intervenant frère dominicain, frère Henri Donneau, professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour frère Henri Donneau.
Bonjour Nathalie.
On poursuit ces échanges de la semaine pour essayer de creuser et puis de donner peut-être quelques clés aussi de réflexion pour comprendre un petit peu ce que traverse notre institution, l'Église. Je vous propose de consacrer ces quelques minutes autour des abus de pouvoir dans notre Église et dans notre institution. Alors, on n'est pas là, vous n'êtes pas là non plus pour régler des comptes avec votre propre institution, frère Donneau, mais quels sont un peu les dysfonctionnements autour de ces abus de pouvoir ? On va essayer de comprendre.
Je crois qu'il faut d'abord commencer par dire que l'Église, qui a une expérience de 2000 ans de gouvernement, a réussi à s'en sortir plutôt bien. Et
malgré toutes les crises du passé et de l'histoire.
Elle a une longue et belle expérience du gouvernement. Je crois qu'elle n'a pas fini de donner des leçons, voilà, de sagesse, d'expérience, de savoir-faire dans le gouvernement. Alors après, il y a ce facteur assez très typique de l'Église, qui fait qu'elle n'est pas du tout comparable à des régimes politiques et en particulier démocratiques, qui fait que dans l'Église, depuis le Christ, l'autorité vient d'en haut. L'autorité dans l'Église vient du Christ, qui la délègue à des apôtres qui ont choisi les successeurs, qui ont des collaborateurs, les prêtres. Vous voyez, donc il y a aussi là une dimension très importante d'un pouvoir qui vient d'en haut, que nous, les ministres de l'Église, sommes chargés d'exercer au nom du Christ comme des serviteurs. Et alors déjà, c'est là qu'on voit l'immense danger qu'il peut y avoir d'abuser d'un pouvoir que nous avons reçu du Christ pour le représenter, pour agir en son nom, un pouvoir qui dépasse de tous côtés nos forces, nos limites, un pouvoir qui vient vraiment de Dieu, sacramentellement de Dieu, avec tous les risques d'abus. Et il suffit de lire dans l'Évangile comment les apôtres eux-mêmes se chipotaient, se chamaillaient, quel était le plus grand, des abus de pouvoir déjà dans le collège apostolique. Alors vous imaginez si ça commençait avec les 12, qu'est-ce qui peut en être pendant 2000 ans, voilà. Ensuite, il y a le fait que les ministres sont des hommes pécheurs, fragiles. Voilà. Déjà, ça se situe dans ce contexte, vous voyez, très particulier dans l'Église. Et moi, tous les matins, je rends grâce à Dieu. En même temps, j'ai la force de m'aider à accomplir un ministère qui dépasse toutes nos forces. Voilà. Alors ensuite, sur les raisons, je crois qu'il y a quelque chose de très, très important dans le fait que le pouvoir venant de Dieu, nous sommes sans cesse obligés de l'exercer, de résister, de l'exercer, j'allais dire, avec autoritarisme. Alors, le risque, du coup, c'est que parfois, il soit exercé de manière trop molle. Alors, parfois, on peut trouver que le pouvoir dans l'Église s'exerce de manière assez molle, pas trop de décisions. Voilà. Serviteur de l'Évangile, il faut garder la paix. Il faut donc éviter de faire trop de vagues. Il faut concilier tout le monde. Vous voyez,
donc, on évite les prises de risque.
On évite les prises de risque, on évite les positions trop tranchées. Ça peut se comprendre. Parfois, ça peut aboutir justement à ce qu'on ne veuille pas trop rentrer dans le fond des problèmes.
Et au fond, on évite aussi d'être en pleine cohérence avec l'Évangile du Christ.
Voilà. Et du coup, c'est une forme d'abus de pouvoir, c'est-à-dire un abus par faiblesse, par défaut, ou une insuffisance.
Par tiédeur, par peur.
Par peur. Ça peut arriver.
On veut garder son statut.
Écoutez, malheureusement, mon expérience de commissaire pontifical, travaillant pour le Saint-Siège, m'a fait voir des cas de communautés, et je ne parle pas de celle des béatitudes, où des responsables cachent délibérément les problèmes, ne veulent pas voir que tel responsable local fait mal son travail, parce qu'a priori, puisqu'il est responsable, il ne faut pas le déjuger. Et donc, même s'il fait des bêtises, on le laisse faire des bêtises. Et ça, voilà, il y a une espèce de peur de provoquer du scandale. Donc voilà, on n'intervient pas alors qu'il faudrait intervenir. On laisse en place un responsable qui notoirement est incompétent, on fait des dégâts, mais comme il est responsable, on n'y touche pas. Bon, ça c'est un défaut qui veut. Et alors, inversement, les abus par excès. Alors ça, c'est la dérive lorsqu'une personne s'approprie indûment un pouvoir et l'exerce en dehors de ce que... Pourtant, le pouvoir dans l'Église est bien encadré, théologiquement, canoniquement, pastoralement, voilà. Mais il peut y avoir des niches. Alors c'est vrai peut-être souvent plutôt dans les communautés religieuses, faut dire ce qui est. Il y a un lieu de faiblesse dans les diocèses.
Permettez-moi, toutes les communautés sont touchées aujourd'hui.
Souvent est évoquée les communautés charismatiques. Toutes peuvent être potentiellement. Alors c'est vrai qu'il y a une faiblesse particulière des jeunes communautés qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience du gouvernement. Je l'ai bien vu quand j'ai découvert les béatitudes par rapport à mon ordre dominicain, 8 siècles de gouvernement, une sagesse chez nous. Bon, on est formé là-dedans. Je ne crois pas que dans l'ordre dominicain, il a plein de défauts. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir trop d'abus de pouvoir. Immédiatement, ce serait contré par des contre-pouvoirs très forts. Vous voyez, il y a une expérience chez nous collégiale de gouvernement qui... Mais dans des communautés nouvelles, avec un fondateur auréolée de toutes les grâces qui sont les siennes, parfois des grâces réelles, des charismes qu'il a reçus, des dons de prédication, des dons de conviction, de perspicacité. Ouais, il finit par être, j'allais dire, mis sur un piédestal. Et ça peut devenir très dangereux à ce moment-là, parce que c'est l'homme providentiel, c'est l'homme qui prêche parfaitement, c'est l'homme qui enseigne parfaitement, c'est l'homme qui fait des miracles. Il est arrivé qu'il ait des dons de miracles. C'est l'homme séduisant. Et alors, on lui prête tout. Et c'est là que les abus, c'est la porte ouverte à tous les abus. Des abus sexuels, éventuellement, des abus financiers, et puis tout simplement des abus de pouvoir. Prendre des décisions qu'on n'a pas le droit de prendre, court-circuiter les circuits normaux de décision. Alors, les communautés nouvelles, c'est vrai, du fait de leurs fondateurs, sont exposées à cela. Mais ça arrive aussi dans des communautés traditionnelles. Des communautés, par exemple, abbatial, enfin, monastique, où il y a un abbé, une abbesse, il peut arriver que l'abbé, qui a une autorité très grande, et des contre-pouvoirs plus faibles, puisse se laisser prendre par une espèce de fièvre, d'excès de pouvoir. Et ça arrive, malheureusement, régulièrement, que des abbayes entières partent mal. Alors, grâce à Dieu, après, il peut y avoir des interventions de l'Église qui aident. Voyez, mais voilà, l'exercice du pouvoir dans l'Église est toujours
alors,
fragile.
Vous parlez d'intervention de l'Église. L'intervention de l'Église vient de l'évêque lui-même, sur un diocèse qui a tel ou tel type de communauté.
Alors, nécessairement, l'évêque diocésain, il y a toujours un œil.
C'est sa première des missions d'intervenir.
C'est une de ses missions, de veiller, comme la prenait
de
leurs
veiller,
yeux au monastère,
surtout
c'est vrai,
s'il reçoit des informations.
Nouvelles, voilà, des informations. Et puis aussi, c'est le rôle du siège apostolique de Rome, hein, qui est alerté, surtout quand il y a des abus sexuels, mais aussi des abus de pouvoir. La congrégation pour les religieux est saisie très souvent de ça. Hein, et du coup, va diligenter des visites canoniques, va nommer des visiteurs, va nommer des commissaires pour aider et lutter contre les abus de pouvoir. Donc, il y a une mission importante. Et l'Église a un savoir-faire réel hein, là-dedans, il faut le dire. Moi, j'ai pu l'expérimenter comme serviteur du Saint-Siège pour une mission de ce type-là, hein, pour, entre guillemets, remettre en meilleur état de marche une communauté nouvelle, celle des Béatitudes en l'occurrence. J'ai bien vu comment il y a un savoir-faire, une expérience hein, qui est providentielle. Voilà. Mais ça, souvent, ça arrive déjà un peu trop tard quand l'intervention est faite. C'est qu'il y a déjà des abus qui sont en place. Il y a déjà Alors d'où l'importance, après, de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, hein, que des personnes osent parler, osent dénoncer des abus de pouvoir.
Donc on en revient à libérer la parole.
Et libérer la parole. Et ça, c'est pas facile, parce qu'oser écrire quand vous êtes membre d'une communauté au sujet de votre abbesse, surtout quand on découvre que l'abbesse a interdit, y compris en confession, de parler, parce que ça m'est arrivé, confesser dans un monastère où j'ai appris après coup que les personnes avaient été interdites. Alors, c'est des cas extrêmes, vraiment très peu nombreux, mais ça peut arriver. Les dérives sont... Et récemment, l'Église de France prend conscience de ça. Hein, et moi, j'ai participé les dernières années à des séminaires tout à fait intéressants au siège de la conférence épiscopale sur les risques d'abus de pouvoir dans les communautés religieuses, hein, qui sont particulièrement vulnérables. La vie religieuse est un trésor dans l'Église, c'est une perle, mais qui est exposé, en raison du vœu d'obéissance, à des abus. Et il faut être très attentif. Je crois que l'Église ne sera jamais assez vigilante dans ce domaine-là. Elle l'est. Hein, mais il faut se donner des moyens de l'être toujours plus pour protéger la beauté d'une vocation religieuse. Il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie au Christ.
L'Église est réellement en crise. Hein, et crise de vocation, puisqu'on parle aussi de... Et vous nommez aussi...
Vous savez, depuis 2000 ans, elle a été X fois... D'une certaine manière, elle est... en état permanent de crise, en tout cas de purification. Il faut se méfier des périodes d'apparente tranquillité, parce qu'il peut se passer par derrière des choses qu'on ne voit pas et qui éclatent voilà, au moment de la crise. C'est un travail permanent dans l'Église de s'ajuster à une meilleure concordance à l'Évangile, et dans le cas par exemple de la vie religieuse, on a dit, à une meilleure exercice du vœu d'obéissance, qui est une perle dans l'Église. Remettre sa vie entre les mains d'un supérieur pour aller vers le Christ totalement, il n'y a rien de plus beau. Moi, c'est le cœur de ma vie, c'est magnifique. Mais ça expose à des dangers lorsqu'on fasse l'obéissance, l'autorité est mal exercée. Ou qu'on a une mauvaise conception de l'obéissance, ou qu'on a une mauvaise conception du pouvoir, ça peut, dans certains cas, grâce à Dieu, qui sont marginaux, mais on découvre qu'ils sont même quasi réels, donner lieu à des abus qui peuvent être très graves. Là aussi, on a vu des cas de vie brisée, pour des quantités de cas de vie magnifiquement réussies dans la vie consacrée. Il y a eu des cas où ça a été brisé par des abus dans les communautés nouvelles comme dans les communautés traditionnelles.
Merci pour cette intervention du jour, frère Henri Donneau. Et bien sûr, le temps passe très vite. C'est un 10 minutes chaque jour pour vous retrouver jusqu'à la fin de la semaine et essayer d'ouvrir quelques fenêtres sur ce qui a été souvent caché, secret. Et aujourd'hui, cette parole, vous le répétez encore aujourd'hui, libérée, une parole purificatrice aussi hein, pour l'institution Église.
Le Seigneur ne cesse de purifier
tout le clergé,
son Église.
Donc ses frères prêtres, ses frères évêques, ses cardinaux. On vous donne rendez-vous demain. Merci.
À demain, Nathalie.